Invité politique ce matin, c'est Fabien Roussel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste et candidat à la présidentielle, on va en parler. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Stéphane Vernet.
Bonjour.
Stéphane qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence par les régionales, Fabien Roussel, puisqu'on a vu ce sondage BVA pour RTL qui est paru hier dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand est en tête au premier tour à 33%. Il est talonné par Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement national à 31%. Et derrière, mais un peu loin derrière, à 17%, votre liste d'Union de la gauche menée par Karima Delli. Est-ce que ces chiffres vous déçoivent? Est-ce que vous dites « ça a peut-être été une erreur, cette Union de la gauche »
Attendez que l'élection ait eu lieu quand même. D'abord, ce n'est qu'un sondage. Et ensuite, les listes n'ont même pas été déposées, toutes les listes. La campagne n'a pas véritablement commencé. Les programmes ne sont pas connus. On commence. Donc, laisser le temps que la campagne se lance véritablement et puis qu'il y ait un vrai débat avec nos concitoyens.
Vous faites la moitié du score de Xavier Bertrand dans le sondage. Vous pensez qu'en 6 semaines, vous pourrez rattraper tout ça?
Il faut conserver l'espoir. En tout cas, le choix qui a été fait, c'est celle de l'Union, vous l'avez dit. On verra ce que ça fera à la fin. Ce qui, à mon avis, ce qui est déterminant, c'est surtout les idées et les propositions que nous allons défendre. Vous savez, dans ma région, la semaine dernière, les portes de Bridgestone se sont fermées pour la dernière fois. Cette semaine, jeudi, après-demain, les salariés de la Française de mécanique à Douvrin vont manifester pour demander à ce que le moteur que Peugeot Stellantis a décidé de délocaliser en Hongrie soit réalisé chez nous dans le Pas-de-Calais. Et donc ces combats industriels sont des combats qui sont incontournables, indispensables. Nous devons les mener. C'est ce que je souhaite pouvoir mettre au cœur de cette campagne régionale, nationale, parce qu'ils sont déterminants pour l'avenir.
Mais ces chiffres, vous avez complètement raison de dire que ce ne sont que des sondages. La campagne n'a pas démarré, etc. Il peut se passer plein de choses. D'accord. En même temps, le fait que vous ayez fait union, vous ayez réussi une union de la gauche dans cette région, ça a été beaucoup dit, beaucoup vu, très su, très commenté. Ça aurait dû ou potentiellement ça aurait pu vous permettre d'avoir quelques points de plus. Dans ce sondage-ci.
Oui. Mais
ça ne vous interroge pas plus que ça, en fait?
Bien sûr que si, que ça m'interroge. Je ne dis pas le contraire. Mais vous savez, avant que cette union n'ait lieu, vous ici et tant d'autres me disent il faut faire l'union,
Hein. Là, elle est faite.
Quand elle est faite, là, vous me dites c'est marrant, ça ne marche pas.
Mais comment vous expliquez?
Si je présente, si nous faisons le choix, nous, par exemple, de défendre l'idée modeste que nous pourrions présenter un candidat à l'élection présidentielle et de ne pas aller derrière un candidat unique de toute la gauche, c'est aussi peut-être parce qu'on se dit que pour aller parler aux Français, il y a besoin que chaque idée puisse être développée et que chacun mette en avant ses priorités. Et pour nous, au Parti communiste français, je viens de vous le dire, pour nous, la priorité, c'est l'emploi, c'est les salaires, c'est des conditions de travail, c'est l'industrie, c'est les services publics, c'est le pouvoir d'achat, c'est ces choses-là que nous, on souhaite mettre en avant en priorité. Alors ça ne va pas parler à tous les Français. Ce n'est pas les priorités de tout le monde. Mais nous pensons que ce sont les choses importantes que nous devons mettre aujourd'hui au cœur du débat dans le pays. Reprendre le pouvoir sur les richesses, sur l'argent, les mettre au service de tous, au service de la santé, de l'école. Regardez les chiffres que l'on a vus hier sur les plus riches de notre pays. En 10 ans, la fortune des plus riches a augmenté de plus 439%. On est les champions du monde de l'accumulation des richesses dans les mains d'une ultra-minorité. On est plus fort que les Américains, que les Allemands, en milliardaires. Enfin, c'est incroyable. Et ça passe. Eh bien, nous, non. Voilà. Donc, c'est un combat qui nous paraît prioritaire pour faire en sorte que chacun puisse vivre dignement avec un travail et un salaire. Voilà. Alors, on va parler des élections nationales, mais nous, on veut porter ce combat-là. Eh bien, c'est vrai que quand on fait une liste avec d'autres forces politiques, peut-être que ces idées que nous portons se voient un petit peu moins. On essaye de les porter au sein de cette liste dans les Hauts-de-France, dans d'autres listes, dans d'autres régions. Mais
on a l'impression que vous n'êtes pas convaincu que c'était le bon choix, cette union de la gauche, quand vous entendez Fabien Roussel.
Ah ben, je vous rappelle qu'au départ, j'avais proposé ma candidature comme tête de liste pour rassembler tout le monde. Parce que justement, dans cette région où le taux de pauvreté est un des plus élevés de France, où le taux de chômage est de 4 points supérieur à la moyenne nationale, où les questions industrielles sont si importantes, je pensais modestement que ma candidature, ma connaissance de ces enjeux-là aurait pu faire en sorte d'aller convaincre un électorat populaire, salarié, ouvrier, pour que ça change dans cette région.
Bon, donc c'est pas l'union le problème, c'est le choix de la tête de liste,
c'est le choix a été fait notamment par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise de se rallier avec les Verts, et puis ça a conditionné tout le reste.
Bon, moi, ça veut dire que c'est pas le bon choix. Donc, pour vous.
Mais, non, je dis pas ça. Je dis que aujourd'hui, c'en est là. Nous, c'est un principe de réalité. Hein. On s'est dit bon, si la majorité pense qu'il faut se rassembler derrière Karim Adeli, eh bien, nous allons y aller. Mais on va se battre aujourd'hui pour que cette liste fasse le meilleur résultat, qu'il y ait le moins d'abstention possible, et puis...
Un dernier mot là-dessus, parce que vous y allez, bon, Jean-Luc Mélenchon, il a l'air d'y aller moins. Samedi, vous étiez tous à Lille pour le défilé du 1er mai, il y avait toutes les forces de gauche qui étaient représentées. Jean-Luc Mélenchon, il a refusé de défiler à vos côtés. D'après Le Monde, il vous aurait dit, vous êtes des faux jetons, donc il a refusé ce défilé. Est-ce que c'est quand même pas la preuve que l'union de la gauche dans votre région, c'est un peu de la façade?
Alors moi, il m'a pas dit que j'étais un faux jeton, parce que je l'ai pas vu. Donc, excusez-moi, je me sens pas concerné.
C'est déjà pas un bon signe pour l'union de la gauche que vous n'ayez pas vu.
Mais non, mais parce qu'il y avait énormément de monde à cette manifestation. Moi, j'y suis tous les ans, hein, depuis que je suis tout petit, donc c'est chez moi, m'excusez. Et j'ai été très content d'accueillir tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, Éric Piolle, j'ai vu. Bon, il y avait beaucoup de Parisiens qui étaient là, tant mieux. Et puis voilà, bon, il a fait son discours de son côté, il a resté dans son carré.
Mais venir à Lille et ne pas défiler avec vous, c'est quoi? C'est de la provocation?
Mais non, on a défilé ensemble, faut pas dire ça. D'abord, je vous rappelle que le 1er mai, c'est le rassemblement des travailleurs, ça s'organise à l'appel des organisations syndicales. Moi, j'avais dit attention à ne pas kidnapper cette manifestation qui est celle des organisations syndicales et du monde du travail, et donc faut y aller modeste, quoi. Présent, mais pas pesant, comme on dit. Et donc, voilà. Mais ouais, tout ça, c'est du cinéma. Enfin.
Une dernière chose sur les élections régionales en Hauts-de-France. Si jamais, au deuxième tour, vous voyez ou vous percevez que le Rassemblement National a une chance de gagner la région à la faveur d'une triangulaire, d'une quadrangulaire, est-ce que vous vous retirerez? Est-ce que vous retirez votre liste? Ou alors, est-ce que cette époque-là est complètement révolue?
Bon, d'abord, je dirais pas qu'il y a une chance, je dirais qu'il y a un risque. Et puis...
Du coup, vous y avez pensé? Vous en parlez entre vous?
Bien sûr.
Et quelle est la décision?
Nous avons toujours été clairs là-dessus, c'est qu'on ne prendra jamais le risque que l'extrême droite française puisse diriger des collectivités, une région ou le pays.
Donc si le risque est avéré, la liste se retirera?
On verra à ce moment-là. Ce que je vois quand même si ce ne sont que des sondages, c'est que le candidat de l'extrême droite dans cette région fait quand même beaucoup moins qu'en 2015. Et donc Marine Le Pen en 2015. Donc le risque, il est quand même moins grand. Mais il est encore présent. C'est inquiétant. Et d'ailleurs, quand je vois qu'en France, là et dans d'autres régions, c'est la droite et l'extrême droite qui dominent, c'est inquiétant pour l'avenir, c'est inquiétant pour la suite. Ça veut dire que les valeurs libérales et d'extrême droite sont majoritaires dans le pays. Donc vous comprenez bien que dans cette situation, les valeurs de gauche, de justice sociale, d'égalité sociale, de fraternité, ces valeurs-là, elles deviennent minoritaires. Et ça devrait donc nous inquiéter et montrer qu'il est urgent de pouvoir remettre cette question sociale au cœur de nos combats.
Ce qui se joue en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça vous surprend ou pas?
Ça me surprend pas du tout. Vous
saviez que ça allait.
Ça ne m'étonne pas. Mais enfin, à l'Assemblée nationale, c'est quand même Focu et compagnie entre les Républicains et En Marche. Parce que ils sont quand même d'accord sur des sujets très importants. important pour le budget. Ils sont d'accord ensemble pour ne pas rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Ils étaient d'accord pour le supprimer. Ils étaient d'accord pour supprimer la taxe sur les dividendes. Ils étaient d'accord pour mettre un bouclier fiscal qui plafonne à 30% les impôts sur les revenus financiers. Enfin, sur toutes ces questions liées à l'argent, les cadeaux aux plus riches, la baisse des impôts des multinationales, pas des PME, la baisse des impôts des multinationales, sur toutes ces questions-là, ils sont sur la même longueur d'onde.
Voilà, donc, les Républicains ne sont pas sur la ligne de Renaud Muselier, pour le coup, puisqu'ils ont retiré l'investiture.
Ouais, c'est du cinéma, ça, d'accord.
Ça, c'est du cinéma.
Ils vont suspendre Renaud Muselier pendant 6 mois, ils vont le réintégrer après, quand il sera réélu. Non, ça, c'est du cinéma. Non, mais ils sont quand même d'accord sur le fond et sur ces principaux sujets financiers. Ils ne veulent pas s'attaquer à l'évasion fiscale. Ensemble, les mêmes. Moi, j'ai défendu un texte de loi pour établir une véritable liste de paradis fiscaux. J'ai proposé le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales, comme on le fait pour nos revenus. Mais ils sont d'accord pour rejeter toutes ces propositions de loi. Ça va trop loin pour eux, c'est trop dur. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils puissent se mettre d'accord sur des listes.
Et justement, on va parler de la crise économique et de la crise sociale, Stéphane.
Oui, alors on sait que les aides aux entreprises seront maintenues. L'intégralité du fonds de solidarité au mois de mai va être maintenue, a dit Bruno Le Maire. Est-ce que vous approuvez cette sortie progressive du quoi qu'il en coûte ? Est-ce que c'est la bonne méthode de conserver des aides transitoires ou est-ce qu'il faudrait passer à autre chose plus rapidement ?
Mais d'abord, qu'il y ait beaucoup d'argent public mis pour sortir de cette crise, c'est important. Nous avons toujours été, nous, du côté de ceux, justement, qui disent il faut une intervention de l'État et donc il faut injecter de l'argent public pour soutenir l'économie, nos services publics. La question qui se pose, c'est comment on utilise cet argent ? Au service de quelle politique ? Le problème aujourd'hui, c'est que on a eu un rapport à l'Assemblée nationale il y a 15 jours de cela. Il y a 140 milliards d'euros d'aide publique versé aux entreprises par l'État, les collectivités, sous forme de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, 140 milliards d'euros par an, sans aucune condition, sans rien demander en échange. Et c'est là où il y a un problème. D'abord parce qu'une grande partie, les deux tiers de ces aides, sont captées par les grosses entreprises et que les PME, les artisans, les petites boîtes, en ont qu'une infime partie. Et d'autre part, cette masse d'argent public qui est versée aux grandes multinationales, elle est versée sans rien leur demander. Et donc on a des boîtes comme Renault, qui par exemple en prend une grande partie, je crois que Renault c'est 7 milliards, et de l'autre côté, Renault délocalise la production de sa future Dacia Spring électrique en Chine. Renault décide de maintenir la production de fonte en Turquie et en Espagne, au lieu de la rapatrier aux fonderies de Bretagne, où les salariés sont en grève, et je les salue d'ailleurs, parce qu'ils défendent leur outil de travail, et ils ont bien raison de le faire, comme beaucoup de fonderies dans notre pays. Et donc, ce n'est pas acceptable que l'on puisse accorder des prêts, des aides publiques, de l'argent public et notre argent à des boîtes qui derrière délocalisent.
Et justement, on va parler.
On peut pas. Enfin, c'est. Donc, il peut y avoir une aide pour la sortie de crise, pour la relance du pays. Oui, mais il faut conditionner ces aides. Il faut que ça bouleverse nos modes de production. Il faut associer les salariés au choix, à l'utilisation de cet argent. Je suis pour le partage des richesses, vous l'avez entendu. Je suis aussi pour le partage des pouvoirs. Et qu'au sein des entreprises, les salariés eux-mêmes puissent dire que cet argent public serait utile pour moderniser tel outil de travail, pour acheter telle machine, pour former tel salarié.
Mais ça veut dire qu'on va rester sur la question des fonderies, puisque c'est un sujet que vous suivez particulièrement. Hier, l'État a octroyé un prêt pour éviter la liquidation à 3 fonderies, dans l'Inde et dans la Vienne. C'est un prêt de 10 millions d'euros. Vous dites c'est bien, vous dites c'est pas la bonne méthode.
Non. Je dis, j'ai été les voir, les salariés des fonderies du Poitou, je peux vous dire que leur angoisse est grande. Ce prêt va répondre à la situation d'urgence, c'est celle d'éviter la liquidation. Donc ça répond. Mais si c'est le prêt, point barre, ça ne suffira pas, puisque le problème des fonderies du Poitou, c'est de pouvoir continuer à produire là-bas les carters qui servent à Renault, notamment. Et donc, ce qu'il faut, c'est que Renault donne de la charge à cette fonderie, comme elle doit le faire pour la fonderie de Bretagne. Elle doit donner de la charge de travail. Comment voulez-vous que Peugeot et Renault donnent de la charge de travail à ces usines s'ils délocalisent leurs véhicules à l'étranger ? J'ai parlé de la Dacia Spring pour Renault, mais Peugeot va délocaliser la C5. en Chine. Voilà, ben, enfin, et ça, ils le font en recevant de l'argent public, l'argent des contribuables. On doit mettre un coup d'arrêt à ces délocalisations. C'est une question d'urgence vitale pour notre pays. Si on débranche l'industrie de notre pays, mais on meurt. C'est comme une, enfin, c'est comme un goutte à goutte, quoi. On a perdu 1 million d'emplois en l'espace de 10 ans. Il faut arrêter. C'est le grand déménagement industriel dans notre pays. On doit y mettre un coup d'arrêt. Ça, je peux vous dire que dans la campagne des présidentielles, c'est ce que je souhaite mettre en débat. Chacun se déterminera. Mais il faut une loi immédiate pour stopper les délocalisations dans notre pays. Une loi pure et simple qui interdise les délocalisations. C'est possible, ça peut être fait en quelques semaines, et au moins, on arrêtera le grand déménagement industriel.
Alors, outre les délocalisations, vous avez le maintien de l'emploi, vous évoquiez tout à l'heure la situation de l'usine Bridgestone de Béthune, hein, qui a définitivement fermé ses portes vendredi dernier. Sur les 863 salariés, il y en a environ 500 qui sont sans emploi. On a la ministre Agnès Pannier-Runacher qui évoque 9 projets de reprise, ou de reconversion, ou de transformation d'emploi. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez que là, sur ce dossier-là, est-ce que vous reconnaissez que le gouvernement agit comme il faut ou pas?
Non.
Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait,
Cette usine.
Vous n'avez pas confiance.
Ah non, mais cette usine a été créée en 1961. Hein, elle appartenu à des Américains, des Japonais. Elle aurait pu.
Elle a changé de main plusieurs fois.
Ouais. Demain, elle aurait pu appartenir à des Chinois qui avaient un projet de reprise. Aujourd'hui.
Donc c'est en amont qu'il aurait fallu intervenir.
Aujourd'hui, nous avons besoin de pneus pour le marché français. Demain, les pneus qui étaient faits à Bridgestone seront faits en Hongrie, vont revenir en France par camion. C'est normal, ça.
Parce qu'on a
ça
pas
devrait
investi,
être dans la loi
pas,
climat, ce genre de choses.
Sur le site de Béthune.
Ah non, pas du tout. Ah non, c'est parce que la Commission européenne, avec la complicité de la France, a accepté de subventionner à hauteur de 50 millions d'euros, je crois, Bridgestone, pour élargir, pour augmenter les capacités de production de son usine en Hongrie. Donc c'est la concurrence.
C'est une distorsion de concurrence instaurée par l'Union européenne.
Mais
elle-même.
Bien sûr, cette Union européenne, cette Europe libérale que défendent En Marche, les Républicains, la droite, c'est celle qui broie, qui tue notre industrie.
Et
parce qu'ils mettent les ouvriers en concurrence entre eux. Ils mettent en concurrence l'ouvrier polonais, hongrois, espagnol avec l'ouvrier français. Et à la fin, c'est tous les ouvriers qui perdent, au final. Parce que l'usine, elle part en Hongrie. Mais ils ne sont pas à l'abri des camarades hongrois que dans 5 ans, ils décident de la délocaliser en Slovénie ou ailleurs.
Et aujourd'hui, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait pour dans ce qui est proposé ou ce qui est envisagé par le gouvernement pour le site, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Mais ce qu'il faut faire, c'est conserver nos capacités de production. Donc là, le site de Bridgestone, les actionnaires ont décidé de fermer. Ça va prendre quelques mois. En mai 2022, dans 12 mois, s'il y a un changement de gouvernement, avec un gouvernement et un président de la République, ce que je souhaite, qui décide de stopper toutes les délocalisations et de relocaliser l'activité industrielle, nous devrons faire en sorte qu'à Bridgestone, on continue de produire des pneus pour nos véhicules. Parce que c'est possible. Et c'est pas que l'on crée d'autres activités à côté, dans lesquelles, là, des salariés pourraient y retrouver du travail. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'il y a des activités à créer. Mais ça doit venir en plus de celle-ci.
Il ne faut pas renoncer à l'activité.
Mais parce qu'il y a un taux de chômage dans le bassin de Béthune qui est élevé. Et puis pour tous ces salariés, je les connais, ces salariés, c'est leur vie. C'est leur vie, c'est une vie sociale, c'est des amis, c'est des collègues. Tout tourne autour de Bridgestone. Vous leur enlevez la vie. Et donc, non seulement on a besoin de cette production, mais en plus, c'est important pour la vie sociale de ce bassin. Et donc, créons les conditions pour que dans cette usine, on continue de produire ce dont nous avons besoin pour notre filière automobile. On n'achète pas moins de véhicules aujourd'hui. On continue d'en acheter plus. Il y a 47% des véhicules du parc automobile français qui ne sont pas aux normes environnementales. Il va falloir les changer, ces véhicules. Donc, il va y avoir un renouvellement du parc automobile. Donc, on va avoir besoin d'une usine de production de pneus en France et à Bridgestone.
Dernière question sur le social. On a vu les manifestations du 1er mai, alors qu'ils se sont passées dans le calme dans beaucoup d'endroits en France. Mais il y a encore eu des heurts, il y a encore eu des blessés, notamment à Paris. Des militants de la CGT ont été attaqués. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous inquiète sur la mobilisation sociale? Ça vous inquiète sur les manifestations syndicales? est-ce que vous dites qu'on ne pourra plus manifester calmement à l'avenir ?
Ça fait un moment qu'on dit que c'est de plus en plus difficile d'aller défiler avec, en famille avec ses enfants sur les épaules. Mais quand je disais il y a quelques minutes que les valeurs de droite et d'extrême droite dominent dans ce pays, eh bien, ça se traduit aussi par ces manifestations de violence au sein des manifestations, et y compris à l'encontre des syndicalistes de la CGT. C'est terrible, c'est
par
organisé.
Par rapport avec les valeurs de la droite, ça ?
Mais c'est par rapport aux valeurs d'extrême droite, aux valeurs, les propos homophobes, racistes, sexistes.
Pour vous, c'est signé, c'était clairement des militants d'extrême droite.
Bah ouais, mais enfin, les mecs qui sont en noir, cagoulés, enfin des mais noirs, habillés blanc, en noir ouais. Et cagoulés, dans les années 38-39, ils étaient
c'est,
aussi
c'est black bloc
en Allemagne.
Le black bloc, c'est une méthode, et c'est une méthode qui peut être utilisée par tout
c'est
le monde.
C'est une méthode.
L'ultra-gauche comme l'ultra-droite. Enfin, y a pas
c'est
de...
une méthode fasciste. Qui n'a rien à voir avec la gauche. Ce sont des méthodes.
Excusez-moi, mais l'ultra-gauche l'utilise beaucoup, le black bloc.
Oui, mais je leur laisse, c'est tout. Mais nous, permettez-moi de le dire, je suis responsable du Parti communiste français, j'ai entendu Philippe Martinez s'exprimer sur ses propos. Les forces syndicales de progrès, les forces de gauche de progrès, caractérisent ce genre d'agissement comme des méthodes fascistes. Voilà, parce que c'est la violence. C'est la violence. Enfin, et puis en plus, je les ai entendus dire CGT collabo. Et j'ai pensé à Henri Krasucki, qui a été le grand leader de la CGT et qui a été interné, résistant pendant la guerre. Et faire ça à la CGT, enfin, mais c'est un retournement, c'est terrible quand même. Hein. Mais ils sont une minorité, c'est groupusculaire. Ah, ça fait du bruit, mais voilà, c'est révélateur aussi d'un climat. C'est pour ça qu'on doit résister, comme toujours.
Et un dernier mot sur votre candidature à la présidentielle, Stéphane.
Oui, alors ce week-end, les militants du parti vont voter sur votre candidature à la présidentielle. Comment est-ce que vous envisagez les choses ? D'abord, vous ferez l'unanimité au sein de votre propre famille. Et ensuite, quel sera le message que vous porterez ?
Bien, d'abord, on va laisser les militants, les adhérents du Parti communiste français s'exprimer.
Vous êtes confiant en la matière ?
Le vote va commencer d'ici deux jours. Et ils sont près de 50 000 à s'exprimer. Il y a eu un vote majoritaire lors de la conférence nationale qui avait réuni 1000 délégués. J'espère, je souhaite, je pense que normalement, une majorité identique devrait s'exprimer, mais je ne peux pas en préjuger, c'est une consultation. Vous savez, chez nous, la démocratie, on y veille comme le lait sur le feu. Nous aurions, à la fin là, de cette semaine, on va avoir voté trois fois pour décider de notre choix. Une fois au Conseil national, une fois en conférence nationale, et à la fin, ce sont les adhérents souverains qui choisissent. C'est très important.
C'est ceinture et bretelle.
Surtout que ça divise un peu. Ouais, au début du mois, il y a une lettre de cadres et de militants qui ont un peu critiqué votre choix de vous porter candidat à la présidentielle. Est-ce que vous craignez que votre stratégie divise votre parti ?
Ne voyez pas ça comme de la division. Moi, je vois ça comme du débat. Et c'est un débat enrichissant. C'est-à-dire que ceux qui doutent de ce choix-là, nous en discutons. Et je peux comprendre les interrogations, et nous continuons d'en discuter, et après ce vote, on continuera d'en discuter. Parce qu'il y a des débats.
Ça veut dire que même après le vote, pas acquis votre candidature,
Si, une fois que le choix sera fait, j'irai jusqu'au bout, quand il sera fait. Mais ce que je veux dire, c'est que les débats qui existent au sein de notre parti, enfin on est un parti important, plus de 5000 élus, près de 50 000 adhérents, forcément qu'il y a du débat, mais heureusement. Et donc on va continuer d'en débattre. Ce que je veux dire, c'est cette question démocratique, le fait que nous, quand on prend une décision, eh bien oui, on vote trois fois, et c'est les adhérents à la fin, enfin les militants, la base qui choisit, c'est pour vous dire que dans notre projet de société pour la France, eh bien, de la même manière, on met la démocratie au cœur. C'est à chaque fois les citoyens qui doivent décider, comme nous, on fait dans notre force politique.
Mais pour vous, véritablement... c'est ferme et définitif, il y aura un candidat communiste, il n'y aura pas de candidat unique de la gauche.
Si dimanche soir, à 17h, la décision est prise, elle sera prise pour aller jusqu'au mois de mai 2022.
Merci beaucoup. Merci Fabien Roussel d'avoir été notre invité.